Et pour conclure, Lille-Lyon, ce sera cette fois à 20h. Restez à l'écoute de RFI.
Soyez bienvenue, toute l'équipe d'International est heureuse de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous. Et nous allons parler d'Europe. En cette fin de semaine, en effet, l'Union européenne semble traverser une sorte de nouvelle crise. Nous allons parler du Brexit, c'est-à-dire la sortie possible de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il y a la crise agricole, il y a la question des migrants, bref. On a comme l'impression que l'Europe ne fait plus rêver et qu'elle surmonte semaine après semaine toutes ces crises au terme de négociations ou de nuits blanches interminables. Sur le plateau d'International aujourd'hui, un très bon connaisseur de cette Europe, Michel Barnier. Merci d'être avec
Bonjour.
Et avec Sophie Malibaud de RFI. Bonjour. Vous avez occupé de très nombreuses fonctions dans cette Europe et vous en occupez encore. Vous avez été ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères français, commissaire européen, député européen. Bref, vous connaissez bien la coulisse de cette Europe. Aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial donc du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, pour les questions de sécurité et de défense. Vous connaissez bien l'Europe. Est-ce que nous vivons une crise historique ou l'un de ces moments de crispation, au fond, comme il y en a eu beaucoup depuis plus de 50 ans ?
Ah non, c'est beaucoup plus qu'une crispation. C'est une addition de crises auxquelles l'Union européenne est confrontée, donc les citoyens, les gouvernements, les entreprises, comme jamais on en a vu en même temps, au même moment, depuis le début de la construction européenne, depuis 1950 ou 57, le traité de Rome. Et donc, cette addition de crises, elle a commencé en 2008 avec la crise financière. Et puis, d'autres secousses. Cette crise financière a provoqué une panne économique, a cassé la croissance dans beaucoup de pays européens. Et ceux qui étaient les moins bien armés, les moins bien préparés, les moins bien réformés, et c'est le cas de la France et d'autres pays, ont plus de difficultés à s'en sortir. Crise financière, crise économique, la crise migratoire, provoquée, on le sait bien, par les conflits du Proche et du Moyen-Orient. D'autres questions comme celle du maintien ou de la sortie du Royaume-Uni. Tout ça, ça fait beaucoup. Et donc, quelque part, c'est un moment de vérité pour les dirigeants européens. Ces crises, elles révèlent quoi ? Elles révèlent parfois la capacité de résistance, de résilience de l'Union européenne. Je pourrais parler de ce que nous avons fait pour rétablir la stabilité financière en 2011, 2012, 2013. J'étais au cœur de ce projet de stabilité avec la régulation financière, l'union bancaire. Elle montre aussi les vraies faiblesses, les failles de la construction européenne, une mauvaise gouvernance de la zone euro, une mauvaise application des accords de Schengen. Voilà, où nous sommes aujourd'hui.
Michel Barnier, il y a un point particulier au cours de ce week-end, c'est l'interrogation, Sophie Malibaud, sur le fait que, effectivement, un pays pourrait, pour la première fois, sortir de l'Union européenne.
Il y a quelque temps, vous parliez d'affaiblissement réciproque au cas où le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne. Au fond, on se demande qui aurait le plus à perdre de cette sortie.
Je pense que tout le monde a à perdre. C'est pour ça que j'ai parlé d'affaiblissement réciproque et mutuel.
Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Parce que
moi, je suis convaincu que la sortie d'un seul pays et
l'Union, ce qui ne s'est jamais produit,
ce qui ne s'est jamais produit, et le Royaume-Uni n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est membre du Conseil de sécurité, qui a une diplomatie mondiale.
Mais est-ce qu'il a vraiment été européen, ce pays ?
Écoutez, il a adhéré volontairement. Personne n'est obligé d'adhérer au projet européen.
Mais en demandant toujours des clauses dérogatoires.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que David Cameron, dans son approche, dans sa façon de présenter les choses, a l'air de donne l'impression
tout de même de ne pas être aussi approché. Moi, je suis convaincu que David Cameron, au fond de lui-même, et il le dit quelquefois, sait que c'est important pour le Royaume-Uni de rester dans l'Union européenne. Alors, il ne dit pas à n'importe quel prix, il pose des conditions. Certaines doivent être discutées. D'ailleurs, elles ont été discutées tout ce week-end par les dirigeants européens. Moi, je pense qu'il a raison, par exemple, d'exiger ou de demander que ce que nous allons faire dans la zone euro, pour aller plus loin ensemble, à partir de la monnaie unique, il faut aller plus loin. C'est une des faiblesses que je relevais tout à l'heure. Et d'ailleurs, Jacques Delors a été le tout premier à dire vous ne pouvez pas avoir l'union monétaire et la désunion économique et budgétaire. Donc nous devons faire l'union économique.
Mais la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro, elle demande un droit de regard.
Elle demande non pas un droit de regard, mais à être tout à fait sûr que ce que nous allons faire ensemble, les 19 pays de la zone euro, n'aura pas de conséquences négatives pour le Royaume-Uni et pour d'autres pays qui ne sont pas ou pas encore dans l'euro.
Pardon, Michel Barnier, il demande une Europe sur mesure, en fait.
Ce qui n'est pas acceptable, ça serait de dire que toutes les réglementations à l'avenir pour le marché unique, qui est si important pour le Royaume-Uni, se ferait avec une exclusion, un opting out du Royaume-Uni. Ça, ça serait pas acceptable parce que ça voudrait dire, en fait, un marché unique à la carte. Et moi, je pense, si je le dis en anglais, qu'il doit y avoir un seul marché unique, only one single market.
Mais au fond,
donc nous sommes là sur cette négociation. Vous savez très bien pourquoi le Royaume-Uni a enclenché cette procédure de négociation avec les autres pays européens. C'est un problème lié au Parti conservateur, à la question européenne au Royaume-Uni, qui est extrêmement grave.
Ça. Au fond, pourquoi il s'est mis dans cette situation, David Cameron? Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse au niveau de son leadership
À un moment donné, le Parti conservateur a fait ce choix avec du UKIP de s'éloigner très profondément de la construction européenne. Il y a peut-être eu une menace de scission au sein du Parti conservateur. Et David Cameron était amené à dire, avec ses amis politiques, nous allons poser la question aux citoyens britanniques. Je dois dire, sans excuser ou sans justifier ce référendum, parce qu'il prend beaucoup de risques, notamment celui d'une sortie de son pays, si le peuple britannique en décide ainsi, que quelque part, il y a une certaine similitude. Je ne parle pas de référendum, je parle simplement de la question que se posent les citoyens entre mon propre pays, notre pays, la France, et le Royaume-Uni, parce qu'il y a chez nous aussi en France une question européenne. Beaucoup de doutes, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension.
Mais la question d'une sortie n'est posée par personne, à part par le Front National.
Non, parce que la sortie, elle est... le maintien, elle est tranchée chaque fois que nous élisons, nous, au suffrage universel, le président de la République. Et celui qui se présente dit, Madame Le Pen dit « je veux sortir de l'euro », François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, ont dit « nous voulons jouer notre rôle dans l'Europe et dans l'Union ». Donc on tranche cette question par un vote populaire au moment de l'élection présidentielle. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une vraie question, de vrais doutes, de vraies critiques. Et j'observe simplement que, alors que les Anglais traitent cette question par le débat, avec des risques, nous la traitons par le silence. Tout le monde rase les murs, on a l'Europe honteuse, on en parle le moins possible parce que ça pose des problèmes chez les Républicains, j'en sais quelque chose, pas un mot,
en France,
ça pose des questions au Parti Socialiste, et donc, du coup, personne n'en parle. Et moi, je pense que, quand il y a une question, il vaut mieux en parler. C'est comme dans un couple ou dans une famille, il vaut mieux parler des questions plutôt que de le traiter par le silence, parce que c'est le silence qui entretient les peurs. C'est le silence qui entretient la démagogie ou qui nourrit les discours démagogiques.
Est-ce que Bruxelles a une responsabilité dans cette affaire, la façon dont les affaires sont conduites, le grand éloignement tout de même des institutions européennes vis-à-vis des opinions?
Est-ce que tout le monde a une responsabilité. Probablement Bruxelles avec trop de bureaucratie, trop de législation. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker a pris une décision extrêmement importante. On n'en parle pas beaucoup, mais il a décidé, avec sa commission actuelle, de réduire profondément, drastiquement, le volume de législation. Et puis de regarder chacune des législations aussi actuelles pour voir si elles ont toujours ou pas une valeur ajoutée.
Mais au début de son mandat...
On parle de débat, du déficit démocratique, qui est la vraie question. Ouais. Moi, je pense depuis longtemps qu'on ne peut pas continuer à construire l'Europe pour les citoyens et sans eux. Donc,
par exemple, au début de son mandat, Jean-Claude Juncker disait que les commissaires devraient aller plus devant les opinions. Mais on ne les voit pas, on ne les entend pas, ne viennent pas.
C'est leur responsabilité. Certains vont sur le terrain. Je suis pas comptable de ce que font les commissaires, mais je ne pense pas non plus que ce déficit démocratique est extrêmement grave, puisse simplement être résolu d'en haut, en top-down, comme on dit en anglais. Je pense que chacun doit prendre sa part. La Commission européenne, en étant plus présente, en faisant attention à ce qu'elle fait, en ayant des politiques plus concrètes, comme par exemple nous l'avons sur la question de la migration, avec la proposition de garde-frontières, de garde-côtes communs, ça c'est très concret, ou le plan Juncker pour l'investissement, on doit pouvoir aller plus loin. Et puis, au-delà de la Commission européenne, vous avez des ministres qui décident ensemble. Vous avez des députés européens qui doivent rendre des comptes. Certains le font. Vous avez des parlementaires nationaux qui transposent les textes européens et qui n'ouvrent pas vraiment de débat sur le terrain à propos des questions européennes. Vous avez des associations, vous avez des collectivités locales, vous avez des églises. Tout le monde devrait prendre sa part d'un débat qui n'est pas un débat de politique étrangère.
Michel Barnier,
la vie quotidienne des gens.
Sophie Malibaud vous interroge sur la responsabilité de Bruxelles. Il y a aussi une réalité, ce sont des premiers ministres dans un certain nombre de pays. On pense notamment à la Hongrie avec Orban, qui sont complètement, non pas eurosceptiques, mais anti-européens. Ils ne sont pas condamnés, pas remis en place. On ne suspend pas les aides financières. Est-ce que vous pensez qu'il doit être sanctionné plus durement pour les propos qu'il tient, Orban ?
Chacun a sa personnalité. Moi, je connais bien Viktor Orban et d'autres dirigeants qui ont une position plus nationale, parfois moins européenne.
Et moins démocratique.
La Commission européenne a mis en place un système il y a quelques années et il a été activé récemment à propos de certaines décisions en Pologne de vigilance.
Est-ce donc, qu'il peut être suspendu du Parti populaire, par exemple, le parti de la droite au Parlement européen?
À un dirigeant, membre du parti, s'il se met en contradiction avec les valeurs du parti, avec la feuille de route du parti, avec la charte du parti, peut toujours être suspendu.
Mais il n'est pas pour l'instant.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la Commission, puisque nous parlions du gouvernement ou des gouvernements, des décisions qu'ils prennent à propos de la presse ou à propos de la justice, ces gouvernements sont placés dans une sorte de vigilance de la part de la Commission européenne. C'est à elle de dire si la ligne rouge est franchie ou si elle ne l'est pas.
En Pologne, mais, situation inquiétante aussi.
Mais je recommande que tout le monde garde son sang-froid. Ce qui est important, c'est de préserver l'esprit européen, non pas d'exclure les gens en ce moment, mais de trouver des solutions communes sur la question migratoire, sur la question de la zone euro, sur la question de l'investissement pour l'emploi et sur la question aussi de l'action extérieure de l'Union européenne pour faire cesser un certain nombre de conflits qui ont des conséquences directes sur la situation de l'Europe.
Pour revenir au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il faudrait dire à l'opinion britannique pour qu'elle penche en faveur de l'Europe? Est-ce qu'il ne faudrait adopter un discours nouveau?
Oui, un discours nouveau. J'étais à Londres il y a quelques semaines et ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne peut pas parler de manière empathique ou avec son cœur. Il faut être très pragmatique avec les Anglais et leur montrer que l'Europe a une valeur ajoutée, a une utilité.
C'est leur intérêt.
En discutant avec des Britanniques, je pensais à un schéma que David Cameron a publié il y a quelques 3 ou 4 ans, quand j'ai lancé comme commissaire européen une relance du marché intérieur pour que le grand marché unique, qui est très important pour eux, c'est même la question principale pour eux, fonctionne mieux. Et ce tableau, il montre les 10 pays les plus importants du monde économiquement tous les 10 ans, à partir de maintenant jusqu'en 2050. Et aujourd'hui, vous avez 4 pays en jaune européen, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne.
Les plus riches.
Et puis, au rythme actuel ou prévisible de la croissance de ces pays, les nôtres, et puis de l'augmentation de la croissance des autres qui ne nous attendent pas, même s'ils nous espèrent quelquefois, plus personne ne nous atteint dans le monde. Vous avez un pays européen qui est éjecté du tableau tous les ans. Et en 2050, c'est demain, 2050, eh bien, il n'y a plus un seul pays européen, ni le Royaume-Uni, ni la France, ni l'Allemagne, dans le G8.
Ça, c'est un argument qui peut convaincre
les
Britanniques de rester.
Moi, je pense que, s'agissant de l'influence britannique, de la capacité des Britanniques de défendre leurs intérêts, de compter dans le monde, cet argument-là compte. Parce que il montre bien quelque chose qui est important pour les Britanniques, mais aussi pour nous, Français, ou pour les Allemands, et pour tous les autres, c'est que si on n'est pas ensemble, on est foutu.
Oui, mais l'Europe,
si on n'est pas ensemble,
Michel Barnier, excusez-moi, l'Europe, c'est pas que de la richesse, c'est aussi un certain nombre de valeurs.
Je viens de parler des valeurs. Je viens de parler de l'influence, de nos intérêts, notre capacité d'être à la table où se trouvent déjà ces 8 pays-là qui n'ont besoin de personne parce que ces pays, nous parlons des États-Unis, nous parlons de la Russie, nous parlons de la Chine, nous parlons de l'Inde, nous parlons du Brésil, ils sont à eux seuls chacun des États-continents. Il y a d'ailleurs, parmi tous ceux qui nous écoutent en ce moment, des Français et des citoyens d'autres pays qui habitent dans ces pays. Ils savent bien que ces pays sont à la table parce que, étant par leur territoire, par leur population, par leurs ressources naturelles, suffisamment puissants pour ne pas avoir besoin des autres. Ce n'est le cas d'aucun pays européen. Aucun pays européen n'est à lui seul capable d'être, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, à la table de ceux qui décèdent l'ordre ou le désordre du monde. Ou nous voulons être à cette table, et il faut être européen en plus d'être patriote, où nous nous résignons à être spectateurs, derrière la table debout, à regarder ce que les autres vont décider pour nous. Et moi, je n'accepte pas ça.
Michel Barnier, justement, pour parler du sauvetage de l'Europe, pour que l'Europe reste une Europe avec une Europe soudée, est-ce que ceux qui veulent la quitter ne devraient pas le faire afin que les autres puissent continuer de vivre ensemble.
Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut, en préservant les valeurs, la règle commune, l'esprit européen, en expliquant ce que nous avons fait ensemble et positivement, notamment le marché unique, il faut essayer de rester ensemble. On a eu cette même question, vous vous en souvenez, en 2011-2012, lorsque la Grèce a failli sortir de la zone euro et faire exploser la zone euro.
Mais elle ne voulait pas en sortir. Elle ne voulait pas en sortir.
J'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait, certains peut-être à cette époque pensaient qu'il valait mieux qu'elle sorte. Je pense qu'il valait mieux préserver l'unité de la zone euro comme il vaut mieux préserver la cohérence de l'Union européenne.
Justement, vis-à-vis de la Grèce, là, c'était le mot que je cherchais, c'était solidarité. Il y avait un devoir de solidarité vis-à-vis des Grecs. Le Royaume-Uni ne veut pas entendre parler de ce type de choses. La preuve, ce qui se passe à Calais aussi, où on se retrouve un petit peu dans un cul-de-sac de l'Europe des réfugiés qui veulent passer de l'autre côté.
Soyons justes avec les Britanniques. Lorsque nous avons été touché par des attentats, Charlie Hebdo ou le Bataclan, avec des dizaines de morts, les Anglais ont été parmi les tout premiers à exprimer leur solidarité, à être présents, comme ils le sont en Méditerranée, comme nous le sommes ensemble sur les théâtres syriens ou irakiens. Donc, peut-être que le mot de solidarité ne s'exprime pas ou ne se traduit pas de la même manière partout, mais moi, je ne vais pas faire de procès d'intention ou jeter la pierre. Je pense que nous sommes dans une situation très grave, le dos au mur, dans une crise ou dans plusieurs crises à la fois, et que on doit traiter les problèmes un par un, faire preuve de sang-froid, préserver ce qui reste et reconstruire l'esprit européen entre les dirigeants européens, et puis, très vite, une fois qu'on aura stabilisé les choses, comme on a stabilisé la situation financière avec la crise financière il y a 3 ou 4 ans, repartir de l'avant sur des sujets concrets qui intéressent les gens. Et je pense que pour la France, le président Hollande, pour l'Allemagne, la chancelière Merkel, la Commission, Jean-Claude Juncker, une initiative devrait être nécessaire pour relancer politiquement l'Union européenne sur les questions de sécurité et de défense, la question de la migration, la question aussi qui intéresse l'avenir, c'est-à-dire un investissement en commun, des emprunts en commun sur la recherche, l'éducation, la formation des jeunes. Voilà des sujets qui intéressent les gens et sur lesquels je crois on peut refaire la preuve qu'ensemble, on est plus fort que chacun chez soi.
Alors,
ou chacun pour soi.
Autre défi, nous parlions donc de cette Europe à géométrie variable avec une possible sortie d'un de ses membres, c'est la question migratoire. Est-ce que cette arrivée des migrants, on a vu notamment la chancelière qui a dû modifier un propos assez généreux ouvert au point de départ, est-ce que ça c'est aussi une remise en question du fonctionnement de l'Europe ?
Ce qui se passe avec cette crise migratoire, 1 million de personnes rentrées de manière non contrôlée en Europe l'année dernière.
On rappelle sur 500 millions d'Européens.
Oui, c'est la preuve aussi de cette habitude ou de cette attitude des Européens qui prennent des décisions très fortes pour agir ensemble, qui demandent beaucoup d'énergie pour être adoptées par les peuples quelquefois, le référendum, c'est pas toujours facile, ou par les parlements. Et puis une fois que la décision est prise, on n'a plus assez d'énergie pour aller au bout de la logique qu'on a soi-même choisie. Et il y a 2 exemples de ça. C'est l'euro, la création de l'euro. On crée l'euro,
et puis on
prend le plus facile, on prend les emprunts, on emprunte facilement, abondamment, à des taux pas élevés, et on se met en dette, comme les Grecs ou les Français l'ont fait, et on ne va pas au bout de la logique, que je citais Jacques Delors, d'aller vers une coordination, un gouvernement économique, fiscal et budgétaire commun. Et Schengen, c'est la même chose. Ce dont nous parlons à l'instant, on fait la zone Schengen, on supprime
Schengen,
les frontières.
La libre circulation.
La libre circulation entre nous, on supprime les frontières intérieures, on prend le plus facile, la liberté de circulation, sans contrainte, à l'intérieur de cette zone, mais on ne fait pas ce qui est nécessaire, c'est le contrôle des dizaines de milliers
de
frontières maritimes, des 9000 kilomètres de frontières terrestres. Les frontières extérieures ne sont pas réellement contrôlées par les pays où se trouvent ces frontières. Et donc, c'est maintenant ça qu'il faut faire. Et si on ne le fait pas, ça sera l'explosion de la zone Schengen. Moi, je ne le souhaite pas.
Je reviens sur la situation à Calais. Comment est-ce que vous voyez la solution ? Est-ce que cette jungle de Calais qui grossit au fur et à mesure de l'arrivée des migrants qui ne peuvent pas passer de l'autre côté ?
Ce sera la dernière question avant la pause.
Je crois que le gouvernement français prend bien la mesure et tout ce qui est dit au niveau de la ville de Calais, la maire de Calais, le président de la région, Xavier Bertrand, qui dit les choses très clairement et très calmement, c'est qu'il faut supprimer cette jungle, traiter dignement les gens, les répartir sans doute dans d'autres endroits, comme on a commencé de le faire, en renvoyant des gens dans d'autres centres d'accueil en France, et en tout cas ne pas laisser cette situation telle qu'elle est, avec des réfugiés qui sont dans des situations indignes.
Mais
le vrai problème,
excusez-moi, nous allons faire une pause sur l'antenne de RFI, sur celle de TV5 Monde, et nous reprendrons cette question de la crise migratoire dans exactement 2 minutes.
Avec à 13h temps universel, Marseille-Saint-Étienne pour commencer.
Conseiller donc de Jean-Claude Juncker pour la défense et la sécurité, ce dont nous allons parler, nous parlions de la crise migratoire. Quelle est la réponse de l'Europe ? Doit-elle instituer, imposer des quotas par pays ?
Je n'aime pas beaucoup le mot de quota. Je pense qu'il a été mal choisi. Mais l'idée, c'est que la solidarité dans l'accueil soit partagée. Sinon, il n'y a pas de solidarité.
Mais on l'impose aux États.
D'ailleurs, c'est ce que souhaite Mme Merkel. Je pense qu'elle a raison et nous aurions tort de ne pas chercher à une réponse commune. D'ailleurs, nous parlions du Conseil européen qui vient d'avoir lieu, qui était difficile, très long. Assez vite, il y a eu un accord qui a été trouvé, auquel Jean-Claude Juncker a participé, et au terme duquel les 28 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un certain nombre de décisions concernant la crise migratoire pour agir et apporter des réponses communes. C'est ça qui me paraît important. Et les réponses communes, c'est bien sûr d'accueillir solidairement les réfugiés quand ils ont droit à l'asile, parce qu'ils sont martyrisés, menacés, massacrés dans leur pays d'origine. Ce sont nos valeurs, nous en parlions tout à l'heure. Il y a la question des frontières à gérer en commun. La Commission a fait une proposition. Il a été entendu qu'elle va être discutée et approuvée très vite, des gardes frontières, des gardes maritimes communs. C'est quelque part une garde fédérale de nos frontières extérieures. Que Schengen fonctionne, sinon on donnera des arguments à ceux qui veulent revenir en arrière au chacun par soi.
Dans ce contexte, est-ce que la Grèce a sa place ou est-ce qu'elle doit temporairement être exclue de Schengen puisqu'elle ne contrôle pas bien sa frontière?
La Grèce, on lui demande beaucoup d'efforts en même temps, financiers, administratifs, de réformes, et je pense qu'elle a besoin de notre solidarité. Donc, quelque part, on peut régler avec les Grecs, je dis bien avec les Grecs, la question des frontières, en faisant ce que nous sommes en train de faire, des centres d'accueil qu'on appelle des hotspots, il y en a 4 qui sont actuellement quasiment opérationnels.
Pas d'exclusion de la Grèce.
En mettant des contrôles. Non, moi je ne me résous pas à l'idée d'exclure un pays ou de laisser partir un pays, faute de l'avoir aidé quand il en a besoin.
Est-ce que vous estimez que les Grecs n'ont pas fait tout ce qu'il fallait,
Évidemment, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait quand ils ont triché sur les chiffres de leur budget pour entrer dans l'euro. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait par les réformes dont ils avaient besoin. Mais entre nous, on est mal placés pour donner des leçons parce que non plus, nous n'avons pas su réformer notre pays quand il le fallait pour le muscler. Et puis, les frontières extérieures n'ont pas vraiment été gérées rigoureusement parce qu'on n'a pas contrôlé comme on doit le faire. Toute personne qui rentre dans l'Union doit être identifiée, contrôlée. On doit avoir des points d'accueil où l'interconnexion se fait entre le fichier Schengen, le fichier Europol et les autres fichiers dont disposent les services de sécurité. C'est ce que font les Américains, c'est ce que font les Chinois, c'est ce que font les Russes quand on rentre sur leur territoire. Nous devons faire la même chose rigoureusement à nos frontières. Puis la dernière chose, qui probablement est la plus importante, c'est d'agir pour que les conflits qui provoquent ces flux migratoires s'arrêtent, retrouver de la stabilité au Proche et au Moyen-Orient, dans le Maghreb, en Afrique, et puis aider au développement. Je rappelle aussi que l'Europe, on peut toujours donner des leçons, on peut toujours critiquer, mais l'Europe est tout de même l'Union européenne. La solidarité européenne s'exerce aussi à l'égard des pays en développement, puisque nous sommes le premier contributeur à l'aide au développement dans le monde.
Avant même qu'on évoque la source des flux migratoires, les conflits, etc., il y a cette décision de l'OTAN aussi d'intervenir en mer Égée. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type d'intervention ?
Cette en mer Égée, au large des côtes turques et avec l'OTAN, puisque la Turquie est membre de l'OTAN, une opération complémentaire de celle que l'Union européenne fait en Méditerranée pour contrôler les bateaux qui tentent de traverser, porter secours, si possible renvoyer un certain nombre de bateaux de là où ils viennent, en tout cas porter secours. Donc c'est une Tout le monde s'y met. Et moi, je trouve, même si on peut imaginer que l'Europe puisse tout faire ou soit présente partout, c'est une opération complémentaire de celle que l'Union européenne fait et fait bien sous l'autorité de Mme Mogherini en Méditerranée.
Est-ce qu'il faut aider davantage la Turquie? Il y a une enveloppe de 3 milliards de prévus. Ça va être aussi l'objet du prochain sommet, puisque le 6 mars, il y aura l'Union européenne et la Turquie.
On ne règle pas cette question des flux migratoires si on n'a pas... avec nous, dans une action commune, un pays aussi essentiel à la frontière, à la charnière entre l'Asie et l'Europe, comme la Turquie. C'est ce qui justifie d'ailleurs le dialogue avec la Turquie depuis longtemps et l'apport important de solidarité à hauteur de 3 milliards d'euros pour qu'une grande partie des réfugiés qui arrivent en Turquie puissent être accueillis, avoir accès au marché du travail et puissent être traités dignement. Et
c'est l'objet. Qu'est-ce que vous pensez des propos du président Erdogan dernièrement qui menaçait donc de laisser, de mettre les camions, frontières. D'ouvrir les vannes de l'immigration?
Je ne crois plus ou pas qu'on soit dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. Madame Merkel est allée en Turquie porter un message européen il y a quelques jours. L'état d'esprit est plutôt, avec cet apport de 3 milliards et puis d'autres négociations qui sont en cours, que la Turquie se mette dans une attitude positive pour aider au contrôle et à la maîtrise des flux migratoires. Mais encore une fois, on ne traitera cette question correctement qu'à la racine ou à la source, en rétablissant la stabilité en Irak et en Syrie, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'instabilité dans d'autres régions comme la Libye ou la Tunisie ou d'autres
Alors,
régions.
Justement, un domaine où on ne trouve pas l'Europe, il s'agit des frappes qui sont actuellement lancées contre l'État islamique ou qu'un certain nombre d'organisations terroristes. La France est bien seule, il n'y a pas de réponse conjointe européenne.
Vous ne trouvez pas l'Europe parce qu'il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas d'aviation européenne.
Bien sûr, il n'y a pas d'autres pays européens.
Il y a des pays européens qui contribue dans une sorte de coordination internationale, à lutter contre Daesh, qui devrait être dans cette région la seule cible et le seul ennemi qu'on doit combattre. L'Allemagne, d'autres pays, les Britanniques ont apporté des moyens de soutien aux opérations, y compris par les Américains, dans ce conflit.
Mais je voudrais revenir sur la Turquie, parce que pour la Turquie, la priorité, ce sont tout de même les Kurdes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Turcs reprochent aux Occidentaux, aux Américains notamment, d'aider les Kurdes à leurs frontières. Ça devient difficile d'avoir une alliance cohérente.
Ça devient très difficile, mais tout est compliqué. C'est le général de Gaulle qui le disait dès qu'on va vers le Proche et le Moyen-Orient. Et actuellement, c'est beaucoup plus que compliqué. C'est très grave. Et on voit bien dans cette région que chaque pays mène sa propre guerre contre quelqu'un de différent, alors que le seul adversaire devrait être les mouvements terroristes comme Daesh. Et donc, ce qu'il faut, c'est probablement que l'Union européenne joue un rôle de médiateur ou de médiation entre ces deux grands courants que l'on voit se mettre en place, les Russes et les Iraniens d'un côté, les Turcs et les Saoudiens de l'autre. On voit bien qu'il y a des solidarités qui se créent. Pour d'autres raisons, ou différentes raisons, je pense que l'Europe, c'est le sens du travail que fait Mme Mogherini, comme autre représentante, devrait être, puisque les Américains sont un peu absents, devrait être dans ce rôle de médiation et d'équilibre entre ces deux grandes tendances.
Alors, nous venons de faire, d'une certaine façon, un peu le tour du monde de ces problématiques de crise. Je voudrais qu'on s'arrête sur un dossier que vous connaissez bien. Vous avez été ministre de l'Agriculture.
Je voudrais tout de même, si vous me permettez, de dire un mot à propos du terrorisme, parce que je pense qu'on ne combattra pas le terrorisme seulement avec des bombardements.
Ouais.
On devra combattre le terrorisme par aussi un autre narratif. Et ça vaut pour les pays d'Afrique subsaharienne ou proches du Moyen-Orient, d'où partent beaucoup de jeunes qui s'engagent dans le djihad. Ça vaut aussi pour des citoyens de nos propres pays qui sont tentés par plusieurs centaines de rejoindre le djihad. Donc je pense qu'un narratif qui serait fondé sur un autre projet culturel, sur l'emploi, sur la formation, est nécessaire à la fois chez nous et dans ces pays qui sont tentés de basculer.
Pour parler de la Libye, par exemple, cette semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu des bombardements américains
contre des bases,
contre des
groupes terroristes. Oui.
Centre d'entraînement de Daesh, pas loin de Tripoli. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution militaire en Libye, ou est-ce qu'il faudrait davantage œuvrer par d'autres voies?
Les mouvements terroristes mènent une forme de guerre contre nous, on l'a vu avec les attentats, et donc quelque part, il faut les combattre par tous les moyens là où ils sont, Mais je viens de vous dire moi-même, avant votre question, que on ne peut pas combattre ces mouvements uniquement par les bombardements. Il faut les combattre par un narratif politique et culturel. Et voilà pourquoi il faut aussi, en Libye, comme les Nations Unies le font, bâtir une forme de stabilité politique, un gouvernement d'union nationale qu'il faut soutenir. Et dans d'autres pays du Maghreb, faire très attention. Voilà pourquoi l'Union européenne, qui est là, à côté, de l'autre côté de la Méditerranée, doit être très solidaire de ce qui se passe pour aider ces gouvernements de transition et d'union nationale à réussir.
Ce sont les Américains qui ont bombardé en Libye. Les Européens, que vont-ils faire ? Sur le plan militaire, il reste les bras croisés.
Je pense que l'Union européenne, avec les compétences qui sont les siennes, suit attentivement ce qui se passe. Je crois que son rôle est aujourd'hui d'aider ses gouvernements à travers les Nations Unies, les efforts des Nations Unies, comme nous le faisons d'ailleurs en Syrie, en soutenant les efforts du coordinateur des Nations Unies, Stéphane de Mistura, à trouver des solutions politiques. Et notre proximité avec la Libye, avec tous ces pays, doit nous conduire à peut-être mettre l'accent sur le soutien à ces gouvernements et au redressement économique, parce qu'encore une fois, ces pays ne s'en sortiront que s'ils retrouvent de la croissance et de l'emploi pour leurs jeunes, c'est-à-dire un avenir pour les jeunes.
Alors, je tentais une transition sur un autre domaine, qui est celui de l'agriculture. Vous avez été ministre de l'Agriculture. Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé en France avec une question. Est-ce que ça se gère nationalement ou est-ce que ça se gère, là encore, question au niveau de l'Europe? Revenons sur ces quelques jours en France.
Des mois que les agriculteurs français crient leur détresse. Ce mercredi encore, en Bretagne, ils bloquent la rocade autour de Rennes avant de s'attaquer à la préfecture de la ville. Ce même jour, pourtant, le gouvernement français a annoncé des baisses de charges pour les soulager. Insuffisant aux yeux de cet éleveur breton.
Les aides, on en a marre, on n'en veut plus. C'est mal perçu, ça ne va pas directement dans la poche du paysan et il faut du temps pour que ça vienne. Nous, on voudrait simplement et dignement vivre de notre métier.
Les agriculteurs français produisent à perte. Les cours de leur production sont trop bas. Deux filières souffrent en particulier, celle du lait et de la viande de porc. Le gouvernement français n'a pas de solution pérenne à cette crise qui s'éternise. Pour son chef Manuel Valls, la solution doit aussi venir de Bruxelles.
La crise est aussi européenne. La Commission doit activer les pouvoirs dont elle dispose en cas de crise. Jusqu'à présent, elle a fait trop peu. Et trop tard.
L'Union européenne n'en ferait pas assez. La Commission a pourtant débloqué 500 millions d'euros d'aide au secteur en septembre dernier. Aujourd'hui, le ministre français de l'Agriculture veut qu'elle aille plus loin. Lundi, à Bruxelles, Stéphane Le Foll a tenté de vendre à ses homologues européens un mémorandum de mesures concrètes.
Je cherche à sensibiliser mes collègues et le Conseil européen pour qu'on bouge sur un certain nombre de ces sujets. Et ça vaut aussi pour l'embargo russe, ça vaudra aussi pour la demande sur l'étiquetage à l'échelle européenne.
Négocier avec la Russie pour qu'elle allège son embargo sur les exportations agricoles européennes. Préciser l'origine des ingrédients sur l'étiquette des produits transformés et permettre ainsi aux consommateurs de privilégier la production de leur pays. Mais aussi stocker les surplus à l'échelle européenne, travailler sur les questions d'harmonisation sociale et fiscale. Telles sont les pistes proposées par la France à Bruxelles. Des décisions concrètes pourraient être prises lors du Conseil européen du mois de mars, pas avant. D'ici là, Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture, rencontrera Manuel Valls ce jeudi à Paris.
Manuel Valls, Premier ministre français, qui dit « l'Europe a fait trop peu et trop tard ». C'est la défausse habituelle sur Bruxelles ou...
Moi, j'aimerais bien, d'une manière générale, que dans ce pays, dans mon pays, on arrête de dire que c'est toujours la faute des autres, la faute de Bruxelles. Il y a des problèmes qui sont français. Qui
Vos amis pas... le disent aussi. Hein.
Oui, bien sûr, mais je ne pense pas qu'ils aient raison pour autant. C'est pas Bruxelles qui nous a demandé de faire les 35 heures pour toutes les entreprises françaises. C'est pas Bruxelles qui a imposé...
Dans l'agriculture, il n'est pas question des 35 heures. Il est question quand même d'une baisse des cours mondiaux.
Je ne parlais pas d'agriculture. Culture en parlant de 35 heures, parce que les paysans sont bien au-delà de 35 heures pour un salaire très faible. Je parlais du problème que nous nous sommes créés nous-mêmes pour notre propre compétitivité. Et puisque nous voulons parler d'agriculture, c'est pas Bruxelles qui a demandé à la France d'imposer un tel poids pour les charges et les impôts, le matraquage fiscal qui touche les entreprises agricoles comme toutes les autres entreprises françaises. À ce point même que M. Valls vient, et je l'approuve, de décider de baisser de 7% le poids des charges. Et ça, ça redonne un peu de compétitivité.
Mais les cours du lait sont très bas, de la viande sont très bas. Si vous étiez aujourd'hui à ce ministère, est-ce que vous trouveriez une autre solution?
Je me garde de donner des leçons aux autres.
J'ai été affronté
à, quand j'étais ministre de l'Agriculture, à une crise du lait, comme mon successeur d'ailleurs, Bruno Le Maire, et nous avons fait face avec les dirigeants agricoles. Moi, j'avais fait aussi une réforme, je me permets de le rappeler, de la PAC, pour qu'elle soit plus juste, en basculant une partie des crédits d'un secteur qui était moins défavorisé vers le secteur de l'élevage, à hauteur d'1,5 milliard par an. Il faut agir sur tous les fronts. Bien sûr, il y a un front européen, je vais y revenir, mais il y a un front local. Le front local, c'est le soutien qu'on peut apporter aux exploitations, au développement rural.
Et vous l'avez entendu, les agriculteurs disent, ce n'est pas de l'aide que
Non, mais je ne vous parle pas d'aide. Je vous parle pas d'aide, je parle de développement rural, d'aménagement du territoire, de l'accès à Internet dans les zones rurales. Je vous parle de l'achat par les collectivités locales pour leurs cantines de produits locaux, des circuits courts. Ça, c'est pas des aides, c'est simplement un modèle économique qu'il faut soutenir.
L'Europe produit trop, par exemple, en matière de lait. Est-ce qu'il faut remettre des quotas ?
Je ne crois pas qu'on reviendra sur les quotas, puisque la plupart des pays européens voulaient les supprimer. Je pense qu'il faut des outils de régulation des marchés, il faut des outils de stockage.
Est-ce qu'il faut augmenter le prix d'intervention, c'est-à-dire le prix d'achat des productions ?
Il faut, les interventions ont été démantelées, donc on ne va pas y revenir, il faut des outils de régulation. Je pense par exemple au stockage. Et puis il faut une discussion entre les pays européens pour que on maîtrise le volume des productions, aussi bien s'agissant du porc que du lait. Mais je voudrais revenir au problème national qui n'est pas européen, le poids des charges, le matraquage fiscal. Le fait par exemple en notre pays de transposer les directives européennes, de faire du zèle et donc d'ajouter des mesures réglementaires à des agriculteurs créant des distorsions de concurrence. Voilà quelques exemples de la négociation entre les distributeurs, les industriels et les agriculteurs. Ça, c'est aussi un sujet qu'on peut traiter au niveau national.
Et puis au niveau européen... C'est une revendication légitime.
Je pense qu'on doit savoir d'où viennent les produits.
Alors et notamment Bruxelles traîne sur ce type
de sujet. Oui, il faut pousser. Je ne donne pas raison à Bruxelles dans tous les domaines. Je pense que, par exemple, Bruxelles devrait évaluer le coût de l'embargo russe, qui n'est d'ailleurs pas justifié s'agissant du porc, à propos des mesures sanitaires. Je pense que il faut discuter avec les Russes, mais vous voyez bien que la discussion avec les Russes est globale. Mais tant que cet embargo existe, on devrait en mesurer le prix et ne pas demander aux paysans d'être le seul à le payer.
Il y a aussi des distorsions de concurrence. On sait notamment en Allemagne que des travailleurs détachés travaillent pour quelques euros de l'heure.
Oui, et c'est pour ça aussi que j'ai approuvé le fait que l'Allemagne se dote enfin d'un salaire minimum pour réduire cette distorsion. Et s'il y a vraiment des concurrences déloyales, la Commission, M. Hogan l'a dit il y a quelques jours, doit examiner, elle examine les situations où il pourrait y avoir une concurrence déloyale. Donc, voyez bien que dans cette affaire, on ne s'en tire pas en accusant les autres et on ne s'en tire pas en restant tout seul dans son coin, surtout quand on a une agriculture qui, heureusement, grâce au travail des agriculteurs, produit pour exporter des produits de qualité, des fromages, des vins et d'autres produits encore, qui donnent à la France une force économique qu'elle ferait bien de préserver.
Michel Barnier, on parlait tout à l'heure d'une sorte de défiance aussi vis-à-vis de l'Europe en général. Est-ce que si Bruxelles ne prend pas la mesure de l'urgence sur cette question de l'agriculture, on ne va pas vers une désaffection encore pire ?
Oui, le risque existe, vous avez raison. Mais encore une fois, faut-il dire... Qui est responsable de quoi ? On ne peut pas toujours dire c'est la faute des autres, se défausser de nos propres responsabilités. C'est trop facile. C'est ça qui me met en colère, moi, comme citoyen et comme homme politique français, de voir que dans ce pays, non seulement on ne parle jamais de l'Europe, notamment positivement, y compris quand il y a de bonnes nouvelles. Le plan Juncker est une bonne nouvelle. L'accord...
Il ne se matérialise pas
Si, par hauteur de plusieurs centaines de milliards engagés maintenant, y compris dans notre pays, sur des projets concrets. L'accord auquel l'Union européenne a apporté tant de contributions avec l'Iran est une bonne nouvelle. Voilà, l'accord probable pour régler la question chypriote est une bonne nouvelle. Il y a de bonnes nouvelles, mais non seulement on ne les dit pas, mais quand on est face à des problèmes, on dit c'est la faute des autres, c'est la faute de Bruxelles. Je trouve pas ça juste.
Alors Michel Barnier, on a beaucoup parlé de l'Europe, du monde. Revenons peut-être sur la situation politique de la France. Vous avez eu de très nombreuses fonctions européennes, vous en avez encore, mais vous êtes un homme politique français encore engagé. Comment va votre famille politique ? On va simplifier. Les Républicains, c'est le centre-droit. Déjà pas loin de 10 candidats à la primaire, pas mal. Vous avez déjà fait votre choix, vous ?
Oui, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de soutenir Bruno Le Maire et... Il s'est engagé, il va s'engager, je l'espère en tout cas, dans cette élection, parce qu'il a, je pense, la capacité de donner de l'espérance à ce pays qui en a besoin.
Et c'est
parce qu'il
est
le plus jeune des candidats, parce qu'il a l'ambition de l'être et d'assumer cette fonction suprême de notre République, parce qu'il a la formation et la culture nécessaires. Moi, j'ai décidé de soutenir cet homme qui a la capacité de porter le renouveau et de l'exprimer. Voilà votre bien question. Mais... Maintenant, vous me demandez comment va ma faillite politique.
C'est pas une machine à perdre, la primaire, par
elle
exemple.
Elle est en convalescence. Moi, je pense que ne pas faire de primaire aurait été une machine à perdre, parce qu'il y a personne dans ce parti, c'était d'ailleurs le cas de la gauche, souvenez-vous, en 2011, qui ait la légitimité et qui fasse l'unanimité.
Personne
ne fait l'unanimité. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi, comme les Italiens l'avaient fait il y a quelques années, comme les socialistes français l'ont fait en 2011, d'ouvrir le débat. Et je trouve très bien qu'il y ait beaucoup de candidats, parce que chacun va s'exprimer, peut-être tous n'iront-ils pas jusqu'au bout de leur candidature à la primaire, mais je trouve très bien qu'il y ait un débat, que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on traite cette question par le débat dont nous avons si peu l'habitude dans ce pays.
La mise en examen de Nicolas Sarkozy, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Ça va peut-être dans le sens de Bruno Le Maire? Ça va peut-être favoriser Bruno Le Maire?
Mais moi, j'ai décidé, dans cette campagne et dans mon action, je l'ai toujours fait en Savoie lorsque j'étais élu, et dans mon action politique nationale européenne, de ne pas parler trop de temps sur les autres, de ne pas critiquer les autres. Je pense que les Français, comme beaucoup d'autres, ont envie de pouvoir voter pour quelqu'un plutôt que contre les autres. Donc moi, j'ai décidé de dire pourquoi je soutiens Bruno Le Maire, pourquoi je pense qu'il ferait un bon président de la République. Vous me posez la question de Nicolas Sarkozy, j'ai été son ministre, nous avons travaillé en confiance, j'ai fait un autre choix, je viens de le dire, pour l'élection présidentielle, mais ça n'interdit pas que, dans le moment difficile où il se trouve, je lui dise mon amitié.
Alors actuellement, dans l'actualité, il y a un autre dossier, celui des Jeux Olympiques. Paris, candidat pour 2024. Vous avez, on s'en souvient, il y a plus de 20 ans, avec Jean-Claude Killy, vous avez porté les Jeux Olympiques d'Albertville. C'est important, ces Jeux Olympiques, je veux dire, en termes de rayonnement, en termes économiques.
Écoutez, moi je pense qu'une région, une commune, y compris une petite commune, un pays qui est sportif, il a plus le moral. Il a plus de dynamisme parce qu'il est sportif. Et ce pays, notre pays, a cette chance d'avoir... Des centaines de milliers de bénévoles, de pratiquants, d'amateurs qui aiment le sport, qui le pratiquent ensemble ou individuellement. Et donc je trouve que tout ce qui peut contribuer à renforcer cette dynamique sportive renforcera le moral du pays qui en a besoin, parce que nous sommes en quelque part d'une sorte de dépression morale et de panne économique. Donc oui, je pense que Paris 2024, c'est une bonne idée. Oui, je pense que notre pays, mon pays, doit avoir l'ambition comme d'autres. Il y a 5 candidatures pour les Jeux de 2024. On n'a pas droit aux Jeux Olympiques, mais on peut participer à cette compétition, on peut faire de ce rêve des Jeux une réalité. Il y a des rêves qu'on construit, et je trouve très bien que des gens comme Tony Estanguet et d'autres s'engagent dans cette compétition. En tout cas, moi, je les aiderai de toutes mes forces.
Comment avez-vous l'impression que la France est vue lorsque vous vous déplacez? Évidemment, vous regardez avec une certaine distance. Il y a une crise politique, une crise sociale, etc. C'est pourtant un pays qui donne envie, qui fait envie. Et il n'a pas le moral, ce pays.
Oui, moi je pense d'abord depuis très longtemps que la France n'est pas grande quand elle est arrogante, et elle n'est pas forte si elle est solitaire. Voilà ce que je pense, depuis très longtemps. J'avais d'ailleurs dit ça aux ambassadeurs français lorsque j'étais leur ministre. Donc ne soyons pas arrogants. Nous n'avons pas beaucoup de leçons à donner, parce que nous sommes en faiblesse économique, et c'est ça qui inquiète, pour expliquer le regard des autres, notamment en Europe. On est inquiet de voir la France faible économiquement, incapable de se réformer. Il faut retrouver cette capacité de réforme et de compter sur le plan économique. Mais nous avons, par la francophonie, je le dis sur une chaîne francophone, qui n'est pas seulement la langue des Français, qui est la langue de plusieurs centaines de millions d'hommes et de femmes dans le monde, y compris dans des pays comme, par exemple, comme Haïti, que j'aime bien et qu'avec mon épouse nous soutenons, la France, par la francophonie, par les valeurs qu'elle défend, par sa présence diplomatique et par les Français de l'étranger qui sont très très nombreux et très actifs, a un message à porter. Nous sommes encore espérés, mais plus personne ne nous attend. Et donc il faut pour cela tenir compte de cette nouvelle réalité du monde et aussi, je le répète, jouer de l'influence grâce et par l'Union européenne, être européen en plus d'être patriote. Voilà ma ligne.
Merci d'être venu nous voir, Michel Barnier. Je vais présenter votre livre, Se reposer ou être libre, avec 7 clés, notamment pour redynamiser cette Europe dont nous avons beaucoup parlé, de cette France dans l'Europe, une Europe qui traverse des crises, vous nous l'avez expliqué, mais qui a aussi des chances d'espérer. Merci d'avoir été sur l'antenne de TV5 Monde et sur celle de RFI. Excellente suite de programme sur ces antennes respectives.
RFI.
It's my heart.